C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Garonne. J'ai intitulé cette émission « De la vie de la Garonne jusqu'au XIXe siècle, en amont de Toulouse ». Ce titre rappelle celui d'un livre publié par Gabriel Manière en 1995. Cet ouvrage est aujourd'hui épuisé. J'ai repris son contenu en y apportant un regard complémentaire sur Carbone et sa région. Ce livre commence par un éloge adressé au fleuve. Garonne, je me suis souvent étendu dans ton lit et tu m'as fait rêver tout au long de mon enfance. Calme, sauvage, provocante, suscitant soumission ou révolte au long des jours, j'ai veillé sur toi, Garonne de ma jeunesse, parce que tu étais là, présente et t'imposais à moi. J'aurais pu aussi intituler cette émission « La Garonne et les hommes », parce que la Garonne a été un vecteur d'un développement économique majeur. Mais la Garonne est d'abord un lieu d'implantation humaine. Les racines de cette activité fluviale remontent au néolithique. Les haches et silex retrouvés sur ces différentes terrasses démontrent une occupation humaine et une circulation permanente. Dès la haute antiquité, le Garonnais a participé à l'évolution de l'humanité. L'art pariétal est présent dans toutes les gorges et les grottes de l'Aquitaine. Les volques, estampillés sur les coteaux de vieille Toulouse et de tout le long des collines dominant le fleuve, surveillaient les intrusions des peuples plus ou moins belliqueux, les Ibères, les Ligures, les Celtes. Durant la présence gallo-romaine, la sécurité retrouvée avec la Pax Romana, les populations se rapprochent du fleuve. Les villas s'installent dans les plaines alluviales, souvent liées à de grands domaines agricoles. Montmorin, Chiragan à Martre-Tolosane, Saint-Sizy à Cazères, Quéryac à Lafitte-Vigordane et Marquefave. Les gallo-romains de notre région ont utilisé la Garonne dans son état naturel, au moyen de bateaux à faible tirant d'eau.
Si la Garonne, elle avait voulu l'endurlu, lorsqu'elle sortit de sa source, diriger autrement sa course vers le midi s'est penchée.
La présence de cités comme Lugdunum Convenarum, Saint-Bertrand de Comminges, montre bien l'activité commerciale et politique de la partie haute du fleuve. On retrouve l'évocation de cette activité des transports. Il est dommage que la création de barrages et centrales électriques ait modifié le paysage fluvial, la disparition de sites séculaires et des vieilles zones portuaires. En aval, après Carbone, l'apparence d'un lit squelettique et on a à peine à concevoir ce que fut la vie fluviale, historique et matérielle du secteur. La Garonne est la limite septentrionale pour les Aquitains. La novième populanie s'arrêtait à la Garonne. Le Languedoc avait pour capitale Toulouse. L'occitan que l'on parle sur la rive droite du fleuve est du languedocien, tandis que sur la rive gauche, c'est du gascon. Dès le Moyen-Âge, la Garonne fait partie du domaine royal. La liberté de batellerie, le règlement, impose aux propriétaires des moulins l'obligation de maintenir un chenal suffisamment large et aucun travaux ne peut être entrepris sans la permission de l'administration et les propriétaires riverains sont tenus de laisser un passage pour le halage. Les droits seigneuriaux furent supprimés à la Révolution. Il faut attendre 1782 pour voir se créer un poste de conservateur général de la navigation de la Garonne. C'est un haut fonctionnaire assistés en permanence par des syndics de la navigation et aussi des patrons jurés, qui sont choisis parmi les bateliers capables d'écrire et de lire. L'autorisation administrative étant nécessaire pour toute prise d'eau. On s'imagine difficilement les événements qui ont pu se passer tout au long de 2000 ans d'histoire. La Garonne est une voie d'invasion et aussi une suite d'événements. Entre l'Occitanie et la péninsule ibérique, les Pyrénées ne constituent pas une frontière, mais des couloirs de passage. Ceci entraîne une richesse en hommes, donc en métiers. La voie romaine allant de Lugdunum à Tolosa suit son tracé. C'est un couloir de peuplement et d'invasion.
La Garonne, elle avait voulu l'enturlu. Dirait au nord, sa marche errante. Elle aurait pu couper la Charente, couper la Loire au bord fleuri, couper la Seine dedans Paris.
Dès la fin des temps romains, 4e, 5e siècle, on assiste à la destruction des édifices païens. Le temple de Belbèze, par exemple, qui dominait la vallée de la Garonne, et aussi à la destruction des villas et domaines agricoles voués aux hordes des Vandales. Nous sommes en 406 et 407 après Jésus-Christ. Puis, les Vandales passeront en Espagne. Le royaume des Visigoths, sous Théoric II, fera de Toulouse une grande cité, à l'image d'une ville romaine. De grands édifices se construiront le long du fleuve, palais. L'édifice paléo-chrétien de la Dorade, louange au fleuve aussi avec la légende de la reine Pédoque, se baignant dans ses eaux, et les écrits du grand poète Sidoine Apollinaire décrivant les environs du fleuve et sa magnificence. Après la fuite vers l'Espagne du peuple visigoth et l'occupation des Francs, on retrouve ensuite les incursions des Vascons. Puis, par là, passeront les Maures qui détruiront, pilleront et seront arrêtés à la bataille de Toulouse dans un bain de sang en 721 par Eudes, duc d'Aquitaine. Et enfin, à Poitiers en 732 par Charles Martel.
La Garonne, elle a pas voulu quitter le pays de Gascogne.
Les Carolingiens apporteront la christianisation et le calme. Et au Moyen-Âge, les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle longeront les rives. Les hordes d'Amaury de Montfort suivront le fleuve et saccageront son paysage à la recherche des derniers cathares. Après la mort de Raymond VII, le sud deviendra français. Les villes deviendront des bastides royales. Gaston Phébus devra franchir Garonne pour se rendre en Béarn. Le prince noir remontera jusqu'à Carbonne pour avoir traversé le fleuve à Pensaguel et Noé, pillant et volant. Les guerres de religion feront 3000 à 4000 morts à Toulouse en 1562 et dévasteront bien sûr notre région. Les contre-révolutionnaires de l'an 7, 1799, seront anéantis à Montrégeau. Après le combat de la Terrasse et du pont de Carbone, la Garonne emportera le sang des victimes. Et en 1814, les troupes anglaises de Wellington et Hill camperont à Noé et poursuivront Soult jusqu'à Toulouse, créant confusion dans les consignes données aux bateliers pour couler leurs bateaux.
Ce matin, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne.
La navigation sur la Garonne permet le développement économique. Grâce à la Garonne, les richesses en matériaux de nos Pyrénées vont être acheminées vers Toulouse. Galets, sable, pavés taillés, plâtre, la chaux de Marsoulas, très appréciée. Déjà les carrières de Belbèze, Furne, Balesta, Roquefort étaient actives sous l'Antiquité romaine. L'acheminement nécessitait des infrastructures routières afin d'atteindre les ports de Roquefort, Boussens, zone portuaire gallo-romaine, ainsi que le transport du marbre de Sarancolin et de Saint-Béat. est passée par la Garonne du marbre destiné au château du Louvre et Versailles. De nombreux monuments toulousains sont en pierre amenés par notre fleuve. Le Pont-Neuf, par exemple. Les bornes monolithiques gasco-languedociennes de Noé et de Saint-Élix, également. À Carbonne, près de l'ancienne pile que l'on appelle le Pila, un carbonnet a récupéré plusieurs grosses pierres chavirées d'une embarcation. Il faut dire que nous sommes là, dans un méandre au courant important. Le portail de l'église Saint-Laurent est en pierre amené par la Garonne. Le vieux port de Carbonne étant situé légèrement en amont de l'église. La pierre de Belbèze apparaît dès le XIIIe siècle dans le remplage des fenêtres de la première église de Rieux, mais aussi à la Tourasse, grosse tour seigneuriale de la famille des Marquefave. Les couvents des Dominicains et des Cordeliers, le portail de la cathédrale en pierre calcaire blanche, œuvre remarquable du maître de Rieux, se détachait sur la façade en briques roses et permettait de jouer sur la polychromie. Cette cathédrale, construite par Jean Tissandier au milieu du XIVe siècle, sera agrandie au XVIIe et son portail sera déplacé au centre de l'édifice. La reconstruction donc de la cathédrale de Rieux voit les pierres de Belbèze arriver au port de Dinatis aujourd'hui. Le chemin public de Rieux au fleuve Garonne, nommé chemin de Bézignac, aujourd'hui Bézinat, ainsi que le bois et les pierres qui seront transportées par soin de l'évêque devant le portail de la cathédrale. C'est un texte de 1645. La pierre est rare dans le diocèse de Rieux. La brique est le matériau local qui prédomine. La pierre étant chère à cause de l'extraction, la taille et le transport. Donc la pierre n'intervient que dans les éléments décoratifs ou dans les soubassements et les chaînages d'angles.
Et moi de temps en temps je vais ramasser quelques fleurs du côté des essaims. Je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la Garonne.
La richesse en bois, avec de nombreuses espèces permettant de diversifier les utilisations, le cheminement sur la Garonne se faisait par 800 radeaux qui descendaient chaque année, partie du Comminges, de l'Aran et de la vallée d'Aure, se dirigeant vers Cazères et Toulouse. La Garonne flottable était celle des radeaux faits de troncs d'arbres assemblés. Au temps de Louis XIV, la politique de Colbert utilisa tant le hêtre que le sapin pour les besoins de la marine royale, le bois pour les rames des galères, pour la construction et le rabout des vaisseaux. 500 mâts de vaisseaux furent tirés de la forêt de Couledoux entre 1667 et 1669. Le problème fut leur transport. Il fallut rendre navigable le Gers tout le long et jusqu'à la Garonne par flottage. On jetait dans les torrents les troncs qu'on rassemblait en train de radeau plus bas, à Montrégeau. Et on faisait des liens en hêtre ou en coudre. Ces radeaux étaient dirigés par deux radeliers, l'un devant, l'autre à l'arrière, à l'aide de grandes rames, et allait jusqu'à Bordeaux. Pour rentabiliser le transport, on chargeait aussi des planches, des pièces de charronnerie, de charpente, des tonneaux. Partaient aussi des veaux venant d'Arbas, bien entravés sur les Sapines jusqu'à Toulouse. La glace venant de nos glaciers pyrénéens sera acheminée vers Toulouse depuis Boussens. Les réserves de glace étaient enfouies dans des zones creusées à Guillemery et à Port-Garot. Les porteurs descendaient la glace dans des hottes sur leur dos jusqu'à Manne. Et depuis Manne, les charrettes amenaient les cargaisons à Boussens. Il y avait évidemment beaucoup de pertes en eau. Ce travail très dur se faisait bien sûr en hiver. Et il y a quelques cartes postales de la maison Labouche qui nous le montrent encore.
Voulu l'Hurlu, elle aurait pu voir la zone par le Rhin après le Rhône, et là se dirigeant vers l'Est, absorber le Danube.
l'apport du fleuve en alluvion, grâce à des crues très violentes, a permis la richesse fruitière, céréalière et légumière, et le commerce, qui se faisait aussi par la route. La belle région des fruits était le Volvestre, et ses coteaux étaient garnis de vergers. Les pommes, les poires abondaient vers Montesquieu et Rieux. Une quantité incroyable de fruits, surtout les pêches. Jusqu'à 18 charrettes chargées partaient en un seul jour pour Toulouse. De même, dans la région de Palamini, ces fruits affluaient à Cazères et à Carbone. La Garonne navigable commençait à Cazères et il fallait 8 heures de trajet à l'acheminement de ces marchandises. Le port de Carbone était très fréquenté. Il en partait 8 à 10 barques par semaine dans l'ensemble. Et il arrivait à Toulouse 1600 à 1700 bateaux servis chacun par 4 hommes, plus ou moins chargés selon la hauteur des eaux. Les radeaux, eux, étaient au nombre de 600 à 700 par an.
Mais la Garonne, elle a pas voulu l'Hurlu humilier les autres fleuves, seulement pour faire ses preuves, elle arrondit son petit lot, ayant pris le Tarn et le Lot, elle confisqua la Dordogne. La Garonne, elle a pas voulu.
Nous continuerons la poursuite de cette émission sur la Garonne et les hommes le mois prochain. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.
Les villages s'appellent Sauterne, Saint-Estèphe ou Saint-Émilion. Les pierres sont belles et la lumière est bonne entre les vignes et la braconne. Toute une enfance à l'ombre de la maison de mon grand-père. J'étais si jeune et je regardais la Garonne. Et je ne pensais à personne quand je rêvais à l'homme à qui plus tard ma vie de femme serait liée. Comme la Garonne qui roule et sonne comme un accent, j'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur, de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et s'abandonne, j'ai toujours su que je l'aurais, ce grand amour. La forêt et l'océan au bout, la terre nue, les grands pins fourbus, la vie qui m'a comme elle pouvait, mais pas vraiment comme je voulais. Et un après-midi, un de ces orages soudains et qui vous jette la folie en tête sur la peau d'un homme un peu poète, mais qui après tout n'est qu'un homme. J'ai tellement d'amour tout à coup, je te le donne. Comme la Garonne qui roule et sonne comme un accent, j'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur, de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et s'abandonne, j'ai toujours su que je l'aurais cet amour. Mon sang, comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et qui rayonne, j'ai toujours su que je l'aurais cet amour. Comme la Garonne roule et sonne, tourbillonne, s'abandonne et rayonne, je savais, je l'aurais cet amour.
Mmh.
retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.